Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio.
Maude, on va parler du sport professionnel parce que enfin le sport va recommencer. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment très hâte. Tu vois, ce soir là,
mais c'est un manque de sport en direct là.
Ce soir, première pratique de ma ligue de balle-molle. J'ai hâte de voir s'il y aura plus de balles ou de bière, mais le sport, nos activités vont recommencer, mais le sport professionnel donc aussi va recommencer. Et on se pose bien des questions sur les finances notamment, là. Comment au niveau du marketing, comment ils vont y arriver, si ça se déroule à huis clos, les droits de télévision et tout ça. Et qui de mieux placé pour en parler que Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, qu'on rejoint avec beaucoup de plaisir. Bonjour Luc.
Bonjour Jonathan.
Luc, est-ce qu'on a raison de croire que, au moins à brève échéance, en tout cas, le visage du sport professionnel va carrément changer, là? Ça va être différent de ce qu'on a vécu auparavant.
Oui, ne serait-ce que quand on va regarder un événement sportif, là, si on le joue là à la lettre, il n'y aura pas de spectateurs. Ça risque d'être relativement, plutôt étonnant. Et si on respecte toutes les consignes, là, la plupart des consignes qu'on peut voir à travers le monde, ça voudrait dire, il y a des gens qui ont calculé ça, qu'il y aurait 18% de sièges occupés. Alors évidemment, à cette hauteur-là, il n'y a aucune ligue de sport professionnelle qui peut rentabiliser les opérations. Mais si c'était juste ça le problème, parce qu'il y en a toute une série de problèmes, les joueurs, au moment où on se parle du côté du basket, ça devait se tenir à Orlando. Il y a des joueurs qui ont dit « Non, c'est pas vrai que je vais aller jouer à Orlando au basketball pour sauver la saison. » Dans le cas du baseball, c'est encore en négociation. Et du côté, évidemment, des joueurs, on veut à peu près rien savoir d'une reprise ou d'un redébut, parce qu'on n'a toujours pas débuté officiellement dans le cas du baseball. Je vous entendais parler de droits de TV. Ben là, le problème, c'est que, par exemple, en Italie, on a demandé, les chaînes de télé, on dit, nous, on veut renégocier les droits, parce que s'il n'y a pas de spectateurs, le show n'est pas le même. Si le show n'est pas le même, il n'y aura peut-être pas autant d'enthousiasme. Quoique, ici, je ferai une parenthèse, si on jette un coup d'œil sur toutes les ligues qui ont recommencé à travers le monde au moment où on se parle, initialement, les codes d'écoute sont plus élevés que lorsqu'on a fermé boutique.
Ah oui, parce que c'est une question que je me posais et que je voulais te poser, Luc, parce que on sait, lorsqu'on parle par exemple du marketing, la publicité, c'est beaucoup basé sur les émotions et tout. Mais le sport, il y a un peu de ça. Puis je me dis jusqu'à quel point l'émotion qu'on peut ressentir en regardant un match de hockey, un match de baseball, de football, va passer par pardonne-moi l'anglicisme, mais le setup, là, tu sais, la foule et tout ça. Alors, est-ce que on va y retrouver le même plaisir? Donc, est-ce que les codes d'écoute vont être aussi bonnes en bout de ligne, tu sais?
Ouais, pour ce qui est des codes d'écoute, a priori, il semble que à court terme, ça va être un peu plus élevé. Bon, je soupçonne simplement qu'il s'agit de gens qui étaient en manque très fortement de sport. J'ai mes doutes personnellement sur du hockey, par exemple, à la fin juillet, début août, là, je suis excessivement sceptique. Évidemment, tant que le Canadien est là, on me dira que la donnée est un peu ça peut être trompeur, mais au-delà de ça, j'ai mes gros doutes. En tout cas, si on s'en remet aux commanditaires, eux, c'est des spécialistes de ça, ce que tu viens de décrire, là, de mesurer l'engouement, le dépassement de soi. C'est tout ça qu'ils achètent, hein, quand ils achètent la commandite. Eux disent pas sûr, tellement que selon les chiffres qu'on aurait au moment où on se parle, en 2020, on assistera éventuellement à un recul des commandites de l'ordre de 40%. Si bien qu'au total tout, là, si tu mets assistance, tu mets les problèmes avec les joueurs, tu mets les problèmes de télé, les problèmes de commandites, le chiffre à la fin à l'échelle mondiale, là, cette année, c'est moins 61 milliards de dollars de revenus.
Aïe.
Donc, c'est un montant qui est colossal. Puis, c'est rendu tellement, important que la MLS vient d'annoncer que si des entreprises locales veulent acheter ce qu'ils appellent et là, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça qu'ils l'appellent, des mini-commandites. Alors, il sera possible, par exemple, de rajouter une pub sur les chandails. T'as peut-être vu McLaren en Formule 1 qui a dit, nous, maintenant, on est prêts à vendre 20 à 30% de la firme. Et sur le plan aussi de l'événement comme tel, comment on va le vivre, là, ça aussi va beaucoup changer. Alors, deux choses qu'on est en train d'étudier actuellement, puis c'est pas de la fiction, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille sérieusement. Du côté des ligues de soccer en Europe, je pense à la première ligue en particulier, Manchester United, qui est le Canadien de Montréal, quoique maintenant, je dirais que c'est certainement beaucoup plus que ça, là, parce que là, on est dans d'autres eaux, là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le soccer, mondial, là, parce que à la fin, on est à peu près les seuls, à bien des égards, à suivre ça un petit peu moins, mais Manchester United et Arsenal sont en train de travailler sur un passeport biométrique. Alors, quand tu vas entrer dans l'amphithéâtre, instantanément, ils vont vérifier un certain nombre de choses au-delà de la température. L'autre élément aussi, qui est développé, là, qui est déjà utilisé dans certains amphithéâtres, c'est une application qui va faire en sorte que dorénavant, quand tu vas commander de la bouffe ou de l'alcool, par exemple, tu es assis puis tu dis j'aurais besoin de deux hot dogs, une bière, 25$, parce que c'est souvent ça maintenant, tu vas utiliser une application. Alors, tu vas entrer, par exemple, au match du Canadien, tu vas utiliser une application, et quand ça va être prêt, on va te faire signe, et puis là, on va te dire, va à tel endroit, puis à tel moment, puis tu vas pouvoir aller chercher ta nourriture. Alors ça, je soupçonne que c'est des trucs qui, par la suite, vont survivre à l'épreuve du temps, parce que à l'usage, probablement que ce sera beaucoup plus facile de commander comme ça, de continuer à regarder le match, puis au moment jugé opportun, de te déplacer, puis d'aller chercher ta commande.
Tu sais que, et peut-être tu me corrigeras si je me trompe, là, mais à ma connaissance, un des endroits qui a été l'instigateur de ce genre de technologie-là, de dire je commande et on me livre à mon endroit, ça a beaucoup parti dans les aéroports. Moi, quand j'étais directeur des communications de l'aéroport de Québec, j'allais dans des congrès à l'extérieur où vraiment il y a, et là je te parle là, de 5, 6, 7 ans de ça, on disait comme c'est tellement grand dans les aéroports, les gens veulent des fois arrêter de se promener, les restaurants vont mettre en place des applications où tu commandes, puis ils vont te le porter directement à ton endroit. Donc, c'est comme si on venait élargir ce genre de technologie-là qui était très nichée pour répondre à une nouvelle réalité très actuelle.
Oui, assurément, on s'est inspiré de ça. Et ça m'a à l'usage, pour l'avoir vécu, ça marche très, très bien. On commande, on est assis, on continue à jaser, puis à un moment donné, dans certains cas, même l'assiette arrive, ce qui est pas si mal. Puis c'est dans une logique toujours d'empressement, dans le cas de l'aéroport. Alors, on est un petit peu aussi dans cette logique-là. Comment faciliter le plus les choses pour, évidemment, contourner la baisse de revenus liée essentiellement à la vente de billets, de commandites, de droits télé aussi. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, l'expérience sport va complètement changer. Puis je te donne encore là un exemple concret de ça. Dans la première ligue, on avertit les joueurs après un but, là, puis ça pourrait ressembler au hockey aussi, tu ne peux pas fêter le but. Parce que tu peux pas te coller, tu peux pas te taper, tu vois le genre. Pas de poignée de main. Pas de crasheur. Hey, là, hockey, tout de suite, j'ai pensé à ça. Oh là là. Pas de crasheur. Il y a des joueurs qui sont en difficulté, là. Je pense à Ovechkin en particulier. Pas de reniflement. Je pense à Ovechkin aussi. Après ça, une bouteille d'eau par joueur. Parce que là, faut plus. Là, dans le temps, tu prenais la bouteille, t'en restais un peu, t'envoyais un petit jet. Tu sais, tu vois souvent les joueurs faire ça au hockey. Ben là, oui. C'est un joueur, une bouteille. Et pas de confrontation physique. Alors, aïe aïe. Alors là, comment tu vas faire ça? Parce qu'en même temps, c'est du sport. Là. À la fin, on va probablement se mettre en échec. Il va y avoir des échauffourées. Mais là, non, strictement interdit. Alors, comment on va faire ça? Est-ce qu'on va créer une nouvelle pénalité? Je ne le sais pas, mais quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit c'est une blague. Et j'ai vérifié sur le site de la première ligne. Et effectivement, il y a toute une série comme ça d'indications. Comme quoi, le sport va devoir s'ajuster. Tokyo 2020, ça devait se passer en 2020. Ça va se passer en 2021. Oui. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que ça signifie que 6 mois plus tard, il va y avoir les Jeux de Beijing, les Jeux d'hiver. On n'aura jamais fait ça de manière aussi collée, là, si ce n'est l'époque où on les faisait à peu près en simultané. Puis on a évité de faire ça avec le temps parce qu'on a bien vu, compris que les commanditaires avaient des problèmes. Mais on a inventé 200 nouvelles idées de réduction de coûts pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Alors, c'est toute l'industrie qu'on a connue, là. Petit bonhomme, là, petite bonne femme, qui va tout changer complètement.
Et pour ce qui est de la mise en marché aussi, il y a des choses qui vont changer, ne serait-ce que le contact avec le public. Là, le Canadien de Montréal aimait ça faire ça, par exemple, depuis quelques années. À un moment donné, tous les joueurs là, étaient à l'entrée du Centre Bell avec leur chandail, puis ils donnaient des mains. Puis, la possibilité de même vendre le rêve de rencontrer un athlète qui est un modèle, qui est une idole, j'imagine que ça se fera plus, ça, là.
Ça va être effectivement, à très court terme, en tout cas, pas mal plus... Oui. Tant qu'il n'y a pas un vaccin, tout ce qu'on vient de se raconter là n'est pas de la fiction. Là. C'est effectivement des choses, des gestes que ces gens-là vont devoir poser pour s'ajuster. Puis pour la petite histoire, c'est Babe Ruth qui avait commencé tout ça, visiter les hôpitaux, donner des cadeaux dans le temps de Noël au début des années 20, alors que le baseball traversait une crise là, suite à ce qu'on avait appelé le Black Sox Scandal, là, où des joueurs avaient été payés pour volontairement perdre une série mondiale. Puis pour la petite histoire, à une autre époque où je travaillais à Québec pour les Nordiques, dans les contrats, c'était précisé, hein. C'était pas un cadeau qu'ils nous faisaient, là, hein. C'était précisé qu'il fallait se déplacer X fois par année pour X œuvres caritatives, parce qu'on veut bien sûr s'assurer que les joueurs vont le faire, parce que pour un joueur, pour un piqué sous banne qu'il fait sans qu'on lui demande, il y en a un méchant paquet à qui il faut tirer parfois un petit peu l'oreille. Mais oui, le sport va complètement là-dessus changer le contact avec les fans. La Formule E, je suis tombé sur une info qui m'a renversé. Les 6 dernières courses de la saison, parce qu'il reste 6 courses pour compléter la saison, vont avoir lieu en 9 jours. Il va y avoir 2 programmes doubles. Une course le matin, une course l'après-midi. Alors là, on est complètement... Ben en fait, c'est presque ridicule ici. Puis toutes les courses vont avoir lieu à Berlin. Alors c'est un défi là sur le plan créatif d'essayer de trouver une manière là, de pognasser à certains égards tout ça, hein, parce que n'ayons pas peur des mots non plus là. Si j'étais par exemple les Sabres de Buffalo, pas participer aux séries, je serais un petit peu déçu là. C'est pour ça qu'on a tout comme été obligé à un moment donné de regarder tout ça puis de dire qu'est-ce qu'on fait. Et puis ça donne ben toutes sortes de choses qui donnent à penser qu'on est parfois peut-être pas juste dans le sport, mais aussi tout à fait dans la business, dans les affaires.
Absolument.
Et parfois aussi dans les ligues de garage.
Absolument. Mais justement, parlant de ligues mieux organisées des fois que d'autres, est-ce qu'il y en a que tu penses vont réussir à mieux tirer leur épingle du jeu que d'autres et pourquoi?
Je crois que c'est le football. Pourquoi? Ben un, ils sont super chanceux. Le Super Bowl a eu lieu. Et là, après ça, il se passait plus rien. Ils ont encore un petit peu de jeu. Ils vont être capables de jeter un coup d'œil sur ce que les autres ligues ont fait, puis ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et je voyais un sondage dans lequel on disait, quand le football, donc je parle du football américain ici pour le préciser toujours, va recommencer, est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer dans les stades? Et c'est le sport qui génère à peu près le plus de passion sur ce plan-là, de gens qui disent, sais-tu quoi, moi, là, même s'il y avait un danger, je vais y aller quand même. Alors, eux vont bénéficier, il y a un jeu de calendrier qui les favorise beaucoup, puis il y a un jeu aussi de revenus, parce que contrairement au hockey qui tire un pourcentage absolument significatif de ses revenus du côté des billets, des ventes de billets, dans le cas du football, là, au début de la saison, uniquement avec les droits de télé, on est déjà dans quelque chose qui ressemble au profit. Alors, c'est tout ça qui va les sauver probablement.
Terminons sur la question justement des droits de télé. On va revenir à ça, on en parlait au début, mais est-ce que la donne va changer un point tel où on pourrait retrouver, par exemple, une dynamique qu'on a connue il y a plusieurs années? Moi, quand j'étais jeune, là, c'était pas toutes les parties des Canadiens qui étaient à TV. Là. Quand ils étaient dans l'Ouest, là, tu pouvais t'attendre à ce que finalement tu regardes t'apprennes le score dans le journal le lendemain. Est-ce que ça pourrait apporter des changements tellement importants parce que la publicité sera plus autant payante, plus autant disponible que des ligues pourraient lever le nez carrément sur une partie des diffusions?
À court terme, je pense que non. Plutôt l'inverse. Pourquoi? Parce que si ce qui vaut des sous, c'est le visionnement du match, parce qu'il n'y a personne dans les estrades, t'es comme condamné à mettre le plus de matchs possible à la télévision. Évidemment que ça n'empêchera pas les revenus de commandite de diminuer, là, malgré tout, pour toutes les raisons qu'on connaît. Là. Et ce qui va probablement sauver le sport professionnel, puis on était dans un début de ça depuis 2020, puis c'est poche pour l'industrie, parce que là, soudainement, arrive ça. Mais c'est que je continue à croire qu'un jour, un Netflix va dire, savez-vous quoi? On va se lancer dans le sport professionnel. Et tout juste, en fait, il y a quelques mois là, avant que tout ça arrive, et Amazon, et Facebook, et Twitter avaient posé des gestes concrets dans cette direction-là. Et comme eux ont simplement à émettre des actions pour financer les opérations, on l'a vu avec certains achats de, je pense entre autres à Amazon qui a acheté Whole Foods aux États-Unis, ils ont offert 13 milliards et dans la journée, les valeurs de l'action en bourse ont augmenté de 13 milliards au total tout. Ben c'était comme une équation à revenu nul. Là, il n'y avait pas de dépenses finalement là, sur ce plan-là. Alors c'est pour ça que je crois qu'un jour, Netflix va aller de ce côté-là. Puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont dire, mais il existe déjà le Netflix du sport. C'est DAZN, hein? D-A-Z-N.
Oui.
Et les initiales. Ben, pour votre information, DAZN, il y a quelques semaines, devait payer les droits de télé de plusieurs sports professionnels en Europe. Et ils n'ont pas émis le chèque. Ils ont dû se faire tirer les oreilles. Alors, ce que ça signifie, c'est que même un joueur comme ça a des difficultés. Puis, ces joueurs-là en Europe disent, ce qu'on a payé pour, puis ce qu'on va avoir, ce n'est plus la même chose, parce que une saison qui est un peu alambiquée, truquée, comme celle qu'on connaît, par exemple, pour prendre l'exemple du hockey, mm-hmm. est-ce que ça vaut la même chose pour les annonceurs et les commanditaires? La réponse quoi? C'est non. Alors, est-ce que toi, tu continues à payer puis à faire le même chèque? Ben, dans le cas de la Ligue nationale de hockey, le chèque est déjà rendu. Et c'est pour ça que M. Bettman est condamné à mettre quelque chose sur la patinoire, parce que il a encaissé le chèque. S'il n'y a pas de série finale, ben, il va falloir qu'il remette le chèque. Ou ça veut dire qu'il va étirer d'un an l'entente qu'il avait avec les réseaux de télévision. Et bien sûr qu'il veut pas faire ça, parce que lui, là, secrètement, il nous le dira jamais à voix haute, mais il sait bien que quand l'entente va être finie, il va aller négocier justement avec les réseaux dont je te parlais un petit peu plus tôt, le Facebook, le Twitter, l'Amazon également, pour aller chercher davantage de sous. C'est pour ça que c'est un catch 21 ou catch 22. Là, tu sais, on est un petit peu pris. C'est que il faut mettre du sport sur la glace, il faut mettre du sport dans les amphithéâtres, dans les stades. Puis en même temps, ben, tu veux pas saboter la qualité de ton produit. Puis oublions jamais que ça te prend des joueurs aussi, hein. Oui. Dans le cas, par exemple, je prends la WNBA, la ligue de la NBA féminine. Ben, eux, ce qu'ils ont décidé, c'est que toute la saison va se dérouler dans une ville. Alors, toutes les équipes vont être réunis dans une ville, puis on va jouer un certain nombre de matchs, au-delà d'une vingtaine de matchs. Après ça, on va avoir les séries comme on les aurait jouées normalement, mais on se déplacera plus de ville en ville. Alors, le défi, c'est d'imaginer une solution qui permette en même temps de protéger les athlètes, puis d'aller chercher les fameux dollars de télévision, de droits de commandite également. Puis en oubliant parfois, au passage, ben un joueur incontournable, sans mauvais jeu de mots ici, c'est le fan. Parce que le fan, lui, dans cette équation-là, il faut bien reconnaître que jusqu'à maintenant, somme toute, il est un petit peu coincé. Puis il est un petit peu aussi rébarbatif à l'idée de se rasseoir dans un stand.
C'est ça, mais en même temps, on a soif. On a envie de vivre des émotions, on a envie de consommer du sport. Luc, c'était super, super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Merci. Alors, hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça passait vite, Maude.
Oui.
Moi, je tu vois, là, si tu me donnes le choix entre un spectacle de musique ou aller à une fête de Saint-Jean ou quoi que ce soit, un événement sportif, là, serait probablement là dans mes priorités. Dans les premiers trucs que je dirais oui ou non, je vais y aller. Là.
Je pense que oui. Genre un match de baseball professionnel. Oh. J'aimerais ça.
On va aller voir un match de foot. Ce serait merveilleux. Ouais. On va essayer de rêver un petit peu. Il nous en reste juste une avant les vacances. Demain, ce sera notre dernière de la semaine. Un gros merci à toute l'équipe, à Achille Moinet, à la mise en onde, à Mathieu Boulay, à Frédéric Moncourt, à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée. Maude, excellente journée à vous. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut!